Vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. La réforme des retraites, les députés voteront dans l'après-midi sur deux motions de censure déposées contre le gouvernement. Le projet de loi contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il devrait être débattu au Sénat à partir du 28 mars, puis à l'Assemblée nationale. Un texte vivement critiqué à gauche, nous écouterons la députée PCF des Hauts-de-Seine, Elsa Foussillon. Le 60e anniversaire de l'indépendance de la Tunisie, 1809 détenus bénéficieront d'une grâce présidentielle. La journée internationale de la francophonie, le thème cette année, 321 millions de francophones, des milliards de contenus culturels. À l'occasion de cette journée internationale, regard sur la maison d'édition Elizade, basée en Tunisie. Elle publie essentiellement des fictions en langue française. Sa fondatrice, Elisabeth Daldoul, sera l'une de nos invitées. Ils avaient été enlevés il y a 2 semaines dans le nord du Mali. 2 employés du Comité international de la Croix-Rouge ont été libérés hier soir. 536 000 candidats passent jusqu'à mercredi les épreuves de spécialité du baccalauréat. En France, ces épreuves comptent pour 1/3 de la note finale. Après le passage en force du gouvernement pour faire adopter la réforme des retraites, 2 motions de censure vont être mises au vote de l'Assemblée nationale. L'une transpartisane du groupe Liot et l'autre du RN seront soumises successivement au vote en fin de journée. Co-signée par des députés de la NUPES, la première a plus de chances d'être votée par des élus de droite défavorables à la réforme. Depuis jeudi, des rassemblements organisés ou spontanés se déroulent dans toute la France pour protester, notamment contre la réforme des retraites et l'utilisation de l'article 49.3 par l'exécutif. La mobilisation s'amplifie sur le front social. Plusieurs secteurs clés de l'économie restent perturbés, notamment dans les transports, la collecte de déchets et l'approvisionnement en carburant. La plus grande raffinerie du pays, située en Normandie et exploitée par Total Energy, a commencé à être mise à l'arrêt par des opposants. D'autres sites pourraient suivre ce mouvement inédit depuis le début de la mobilisation. Le projet de loi contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. Il devrait être débattu au Sénat à partir du 28 mars prochain. Un texte vivement critiqué à gauche, la députée PCF des Hauts-de-Seine, Elsa Foussillon.
Un regard assez critique sur ce texte présenté à la fois par Gérald Darmanin et Olivier Dussopt, qui correspond à peu près à grands traits au texte précédent, un énième texte sur la question de l'immigration. Je dirais avec encore une vision soit négative quelque part de l'immigration qui s'ancre aussi sur un terrain visant toujours à gonfler les chiffres de l'immigration plutôt qu'à tenter de répondre aux défis de l'accueil qui me semble extrêmement important. Il y avait eu des premières annonces intéressantes sur la question de la régularisation des travailleurs sans papier. Et puis au fur et à mesure de l'approche de la sortie du texte, finalement toutes ces mesures étaient de moins en moins importantes et visaient très peu finalement de travailleurs sans papier alors qu'ils sont nombreux dans le pays. Donc la bataille va quand même consister pour beaucoup à travailler cette question, à faire en sorte que le plus grand nombre de celles et ceux aujourd'hui qui sont poussés à la clandestinité, qui construisent le pays, je pense aux JO, beaucoup de travailleurs sans papier sur le chantier des JO, mais aussi du Grand Paris, comment on leur assure dignité et des droits, tout simplement.
Vous craignez que le côté répressif prenne le dessus sur le côté davantage lié à l'intégration, comme cela avait été annoncé ?
En tout cas, tout est fait pour cela. On est dans une période où l'extrême droite, mais aussi parfois la droite dure, instrumentalise la question de l'immigration. On l'a vu d'ailleurs tout simplement sur les retraites, avec les propositions dites natalistes du Rassemblement national, qu'en fait étaient des propositions à la fois réactionnaires du point de vue des femmes, mais aussi xénophobes, en expliquant qu'il fallait faire plus de bébés en France, mais surtout des bébés blancs, pour permettre que finalement l'immigration n'arrive pas trop en France et que le travail ne soit pas pris par les étrangers. Donc oui, je crains évidemment que le Sénat tente de durcir le texte et de s'engouffrer en fait dans cette espèce d'instrumentalisation de l'immigration plutôt que de regarder en face le défi qui est devant nous, et c'est un défi d'accueil, je le crois résolument.
Et quel type d'amendement vous pourriez être en mesure de proposer au sein du groupe communiste ?
À la fois la question d'une régularisation plus large des travailleurs sans papier, des conditions pour cela. Du point de vue de l'intégration, il y a la question, elle est posée dans le texte, hein, par exemple, de l'acquisition de la langue française, sauf qu'il n'y a pas beaucoup de moyens qui sont donnés pour que les gens puissent acquérir cette langue. Ça fonctionne plutôt par injonction plutôt que par intégration. Donc on aura évidemment des amendements là-dessus. Toute la question du respect des droits aux frontières aussi, qui est de l'ordre du rappel, mais ça me semble extrêmement nécessaire. Et puis aussi une question qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'interdiction d'enfermer des enfants et leurs familles dans les centres de rétention.
Plusieurs élus ont récemment visité le centre de rétention du Ménil-Amelot et ont d'ailleurs interpellé les autorités sur cette situation. C'est ce que vous faites également.
Oui, j'y suis allée, je crois, à deux reprises déjà dans ce centre du Ménil-Amelot qui est effectivement un centre où la CIMAT qui exerçait jusque-là et qui avait l'habilitation pour intervenir nous dit que les conditions sont plus réunies pour qu'il le fasse. C'est-à-dire que ça veut dire une situation extrêmement préoccupante du point de vue du respect des droits. Pour ceux qui veulent s'imaginer ce que c'est le centre de rétention du Ménil-Amelot, c'est un centre qui est juste à côté de l'aéroport. Et à peu près toutes les deux minutes, il y a un avion qui décolle au-dessus des têtes des sortes d'abris qui sont là dans ce centre de rétention. Et ce n'est pas les quelques agrès sportifs, je crois, dans la cour qui permettent d'améliorer ça. Puis surtout, la situation des centres de rétention, c'est une situation auquel je crois il faut mettre fin, puisqu'on enferme des gens qui sont juste coupables d'être étrangers, en fait, et qui aspirent bien souvent à continuer leur vie en France, qui ne demandent qu'une chose, c'est qu'on les régularise. Et donc, quand M. Darmanin explique que les personnes qui sont là, c'est des personnes délinquantes, il y a effectivement des personnes qui sortent de prison et qui sont mises dans l'écra, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne dans cet état des choses. Et donc, ce n'est pas le CRA qui doit régler cette situation, c'est soit effectivement la question de la prison, la question de la réinsertion, voire la question du départ, mais ça ne peut pas être les CRA qui règlent cette question.
Elsa Faucillon, députée PCF des Hauts-de-Seine. Plus de 80 Palestiniens ont été tués depuis le début de l'année dans les affrontements avec l'armée israélienne. Dans ce contexte de dégradation de la situation sécuritaire, l'Égypte a accueilli hier des représentants palestiniens, israéliens, américains et jordaniens. Une réunion internationale pour tenter de ramener le calme après la récente flambée de violence en Cisjordanie occupée, selon le ministère égyptien des Affaires étrangères. À Aqaba, en Jordanie, fin février, Israéliens et Palestiniens s'étaient engagés à œuvrer pour une désescalade. 20 mars 1956, 20 mars 2023, c'est aujourd'hui le 67e anniversaire de l'indépendance de la Tunisie. Selon un communiqué publié sur la page Facebook de la présidence de la République, le président tunisien Kais Saied a décidé d'accorder une grâce à 1809 prisonniers. Et c'est aujourd'hui aussi la journée internationale de la francophonie. Cette date fait référence à la naissance, le 20 mars 1970, à Niamey, au Niger, de l'Agence de coopération culturelle et technique qui allait devenir l'organisation internationale de la francophonie. Cette journée s'inscrit cette année sous le thème 321 millions de francophones, des milliards de contenus culturels. Il s'agit de valoriser la création de contenus culturels et de faciliter leur diffusion et leur accès sur Internet. À l'occasion de cette journée, nous nous intéressons à la maison d'édition Elizad, basée en Tunisie et qui publie essentiellement des fictions en langue française. Sa fondatrice, Elisabeth Daldoul.
La maison d'édition existe depuis 2005 avec ce défi initial de faire traverser les livres, puisque la maison est basée à Tunis, de faire traverser les livres de cette rive sud de la Méditerranée vers la rive nord de la Méditerranée. C'est-à-dire d'aller un peu dans le sens inverse de ce que nous avons l'habitude d'avoir dans nos librairies, en tout cas à Tunis, c'est-à-dire énormément de livres de maisons d'édition françaises. Et j'avais envie aussi de montrer que nous, au sud, sur cette rive, on pouvait aussi faire circuler des textes, des imaginaires, etc. Elizad, c'est surtout une maison d'édition spécialisée dans la fiction, donc romans, nouvelles, d'auteurs, je dirais, pour faire simple, d'auteurs du Sud, je ne sais pas si ça veut dire grand-chose, mais en tout cas, d'auteurs dans le catalogue, on trouve des auteurs qui vont de la Mauritanie avec Beyrouk jusqu'à la Palestine avec Karim Khatan, en traversant le Maghreb et en allant du côté du Mashrek.
Alors comment on maintient à flot une maison d'édition? On sait que ça n'est pas facile de faire vivre une maison d'édition.
Non, c'est pas facile, c'est un vrai engagement et on maintient tant bien que mal certains livres mieux que d'autres, et ces livres qui marchent mieux nous permettent de tenir pour ceux qui marchent moins bien, pourtant dans lesquels nous croyons vraiment, puisque nous avons choisi de les publier. Mais bon, ça c'est la vie de l'édition pour tout éditeur. Donc travailler, c'est essayer de trouver des textes qui font écho chez le lecteur. Alors bien sûr, on n'a pas de recette, hein, mais moi je pense toujours, je me dis, c'est des livres honnêtes. Quand je dis honnêtes, c'est-à-dire que je pense que ce qu'on offre à découvrir au lecteur de nos littératures au sens large, c'est vraiment des livres travaillés. Après, on peut ne pas accrocher à une histoire, mais en tout cas, il y a toujours à découvrir. Voilà, et puis après, quand le livre plaît au plus grand nombre, c'est un bonheur fou.
Alors, il y a une question aussi avec la maison d'édition Elisade, ce sont les couvertures, le choix du papier, tout ça, c'est important aussi pour qu'on vous identifie, pour que le lecteur vienne à vous.
Tout à fait, parce que vous imaginez bien, devant le nombre de livres qui paraît dans l'espace francophone et je dirais la France, qui est un vrai marché, il fallait, avec ce défi, l'accompagner aussi d'outils. Sinon, c'était impossible, mais en tout cas, c'était aussi un des moyens de toucher, avant de toucher le lecteur, de toucher les libraires, hein, de sensibiliser les libraires à notre catalogue. Effectivement, pour cela, on est accompagné d'une maquettiste formidable, dans le sens où elle est en adéquation avec nos textes. Elle travaille vraiment en complètement symbiose avec les textes. Et c'est vrai que moi, personnellement, en tant qu'éditrice, j'aime le bel objet. C'est-à-dire, quand j'achète un livre, je suis assez sensible au papier, et forcément, je restitue ça dans mes choix de fabrication.
Qu'en est-il de la distribution des livres au Maghreb, dans le réseau des librairies au Maghreb ?
Malheureusement, on n'en est nulle part. C'est-à-dire que c'est un problème récurrent depuis des décennies, bien avant que je commence. Et le livre ne circule pas au Maghreb. Et on en est encore à ramener nos livres dans les valises pour pouvoir les vendre sur place. Donc le problème, il est politique. C'est-à-dire que je crois qu'il y a un choix délibéré de ne pas vouloir faire circuler le livre au Maghreb, pour toutes les raisons qu'on peut imaginer.
Toutes les maisons d'édition maghrébines sont confrontées au même problème.
Ah oui, un grand nombre. C'est-à-dire, en Tunisie, où se trouve Elisade, vous ne trouvez quasiment pas d'auteurs ou marocains ou algériens publiés au Maghreb. Vous trouvez des auteurs publiés en France, bon, les circuits étant beaucoup plus rodés, on importe, etc., ces livres-là. Mais au Maghreb, dans les trois pays, nous avons les mêmes réalités, alors que nous avons un vrai marché. Déjà, s'il était ouvert, ça nous donnerait une bouffée d'oxygène énorme.
Comment fait-on aussi pour déterminer les prix des livres au Maghreb ? Vous n'avez pas forcément le même prix en France qu'en Tunisie, au Maroc ou en Algérie.
Tout à fait. C'est aussi l'intérêt de publier, d'imprimer, etc., dans nos pays du Maghreb, parce que du coup, on peut adapter les coûts de fabrication au pouvoir d'achat local, forcément. Le calcul des coûts est assez rapide, hein. C'est tous les coûts de fabrication, tous les coûts inhérents à la fabrication d'un livre, de la maquettiste à l'imprimeur, etc., qui permettent de calculer les coûts et surtout de l'adapter à nos lecteurs, parce que je parle pour la langue française, dont le catalogue est essentiellement en langue française. Il faut savoir que le livre importé pour tous nos pays, enfin en tout cas les trois principaux pays du Maghreb, les livres importés est quasiment aujourd'hui inabordable. Nos monnaies, enfin le dinar tunisien ne cesse de dévaluer. Un roman, c'est trois fois le prix que le lecteur peut acheter. Donc c'est vraiment inabordable, ce qui fait que, conséquence, on lit beaucoup moins en langue française, pour la langue française, et ce qui est quand même triste, parce que le bilinguisme, voire plus, est quand même une richesse dans nos pays. Enfin, je veux dire, c'est un atout qu'il ne faudrait pas perdre.
Elisabeth Daldoul, fondatrice de la maison d'édition Elisade, basée en Tunisie, Elisabeth Daldoul répondait à Loïc Barrière. Les donateurs internationaux sont appelés à se mobiliser en faveur des populations de Turquie et de Syrie, ces deux pays frappés par le séisme dévastateur du 6 février dernier. Tremblement de terre qui a fait plus de 50 000 morts et causé d'énormes destructions. Des millions de personnes ont vu leur logement détruit dans la zone du sud-est de la Turquie et du nord de la Syrie. Le Parlement irakien a fixé au 6 novembre prochain les élections des conseils provinciaux. Ce sera la première fois depuis 10 ans pour ces instances dissoutes dans la foulée du mouvement de protestation anti-pouvoir de 2019. Ce scrutin concernera 15 des 18 provinces irakiennes. Les trois provinces de la région autonome du Kurdistan d'Irak ne sont pas concernées. Les conseils provinciaux allouent des budgets dans les secteurs de la santé, des transports ou encore de l'éducation. Ils avaient été enlevés il y a 2 semaines dans le nord du Mali. 2 employés du Comité international de la Croix-Rouge ont été libérés. Hier soir, ils sont sains et saufs. Le Mali est en proie à une crise sécuritaire déclenchée par une révolte régionale dans le nord, une révolte qui s'est transformée en insurrection djihadiste. Les troubles se sont étendus au Burkina Faso et au Niger voisin. 536 000 candidats passent jusqu'à mercredi les épreuves de spécialité du baccalauréat. Elles comptent pour un tiers de la note finale. Les résultats seront intégrés pour la première fois dans Parcoursup. Depuis la réforme du bac, les élèves doivent désormais choisir en fin de seconde 3 spécialités à étudier en classe de première, puis 2 en classe de terminale. Ce sont elles qui lancent l'examen 2023. L'activité touristique à Paris et en Île-de-France a augmenté en 2022. La capitale et sa région ont accueilli plus de 44 millions de visiteurs, une hausse de 95% par rapport à 2021. Mais les niveaux d'avant pandémie de Covid-19 ne sont pas encore atteints. Le nombre de visiteurs est en baisse de 13% par rapport à 2019. Vous êtes bien sur Radio Orient. À 12h30, votre journal en langue arabe. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le Flash et 17h30 pour votre journal. Votre émission politique plurielle à 19h et 23h présentée par Loïc Barrière. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient, il est 12h17.